du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Allez, en ce début de semaine et en ce début du mois d'août, quel plaisir de vous retrouver pour ce Présence Midi. Présence Midi assez simple dans son sommaire, puisque dans quelques temps, nous serons avec un auteur de bien de chez nous. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont un des premiers qui était sur la montagne de mes grands-parents. Le titre exact m'échappe, mais c'est Jean-Paul Abadie qui est venu avec les fonds Alix de Bagnères de Bigorre, qui mettait en avant tout ce qui était notre passé, nos racines dans les Pyrénées, la montagne des grands-parents, le sport de nos grands-parents, etc. Et là, aujourd'hui, on va voir qu'il est parti à la recherche dans sa famille d'une personne dont il n'avait que le prénom, et pourtant c'était une cousine germaine à lui. Et comment, avec un prénom, on arrive à retrouver
Présence
ses racines.
À Luchon, 94 FM.
Jean-Paul Abadie, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir sur Radio Présence. Si je vous le dis, c'est que je le pense.
Bon, merci de me recevoir. Et tout d'abord, je suis venu il y a quelques années.
Quelques années.
Dans les studios de Radio Présence, avec notamment Anne Lasserre-Berne.
Oui.
Et nous avions fait plusieurs
émissions. Une de votre premier ouvrage en 2015, c'était Les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents, livre avec beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations.
Surtout Alix, de Bagnères de Bigorre. Voilà.
Et vous étiez venu d'ailleurs faire une émission avec les photos Alix, avant qu'il soit repris par la mairie de Bagnères.
Voilà, déjà les photos avaient été données par la famille Alix à la ville de Bagnères de Bigorre, gracieusement.
Oui, gracieusement, oui.
À l'époque, on comptabilisait 700 000 photos, documents photographiques, des négatifs qui allaient de la plaque de verre jusqu'au 24-36 que nous avions tous en dernier, lorsque nous faisions de la photo. Voilà, mais c'est 700 000 documents. Mais depuis, le fonds a été réévalué. Ils en sont à 1 million de documents photographiques.
Incroyable, c'est voilà. Toute l'histoire de notre région, puisque ils étaient venus nous raconter le frère et la sœur. Hein.
Voilà, Jean et Jeanne.
Et Jeanne
est décédée depuis.
Oui.
Dommage, Jean et Jeanne est salée.
Voilà.
Je suis toujours en relation avec Jean, récemment, et tout récemment encore. Il commence à vieillir. Nous sommes dans des relations amicales depuis toujours, puisque ma famille était amicalement, grâce aux prises de photos de l'époque, pour les communions, les mariages, etc. Donc c'est une amitié qui dure depuis plus de 100 ans.
Alors, votre premier ouvrage, c'est Les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents. Ensuite est venu, 2 ans après, Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents. Toujours cette notion de l'ancien temps, de retrouver...
De lier notre présent aux temps anciens, mais également une histoire de transmission. De transmission de ce qui s'est passé avant nous et que l'on a tendance à oublier, effectivement, alors que ça peut nous servir pour évoluer vers un avenir différent de celui de notre présent.
Ah oui, quand on voit aujourd'hui les images tes livres et oui. quand on voit aujourd'hui comment ça se passe, on a l'impression que c'est tellement loin alors que c'est pas si loin que ça, hein, les grands-parents.
Et on sent
pas...
dans ces photos, moi ce que j'en retire souvent, c'est le respect. C'est incroyable, le respect de tout, le respect dans le sport, bon, notamment, mais le respect dans les photos de marché, dans les... Bon, ils ont photographié tellement de documents, et vraiment...
Vous vouliez mettre à l'honneur ces documents à travers un fil conducteur, une thématique bien, bien précise, comme les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents, voilà.
Oui.
Ensuite, vous êtes intéressé à une personne bien précise, Jean.
Mon voisin, paysan, un vrai paysan.
Jean, le dernier paysan en 2021. Et puis, au pas de Jean et de ses vaches gascognes des Pyrénées en 2023.
Oui.
Et là, vous venez d'écrire un nouveau livre en 2025, enfin l'année dernière.
Oui.
Et là, c'est beaucoup plus personnel cette fois-ci, puisque c'est une vraie enquête policière que vous nous... presque vous nous proposez, avec une patience énorme, enquête policière qui a débuté
en 1973.
73.
Où il n'y avait pas d'ordinateur, pas de portable, on écrivait à la main, il y avait encore le téléphone à la cabine téléphonique du village.
Avec les pièces.
Non, avec le correspondant local tournait la manivelle et qui disait « Allô ? Bon, attendez, je n'entends pas bien, je vais mettre mes lunettes. » Je ne voyais pas tellement la relation entre les lunettes et le fait d'entendre mieux. Mais bon, Monsieur Cazot, c'était son nom à l'époque. C'était marrant.
Et donc ce livre, c'est « Si loin des Pyrénées, Baptistine Marceline et ses rêves d'Amérique ». C'est une histoire de famille. Vous êtes mis en quête de faire un arbre généalogique. Oui. Vous avez retrouvé donc le nom le prénom d'une cousine.
De mon
Germaine.
Papa. Une cousine Germaine. Germaine à mon papa.
Et
rien d'autre.
Et rien d'autre. Un prénom... Vous savez que c'était
la cousine. Naissance.
Et avec ça...
Et personne dans ma famille ne savait rien. Ne savait rien d'elle.
Mais vous avez réussi par
ténacité.
Par conviction, ténacité. Vous n'avez rien lâché. Vous êtes quand même arrivé à vos fins. Hein. Bon, on spoil pas le livre. 50 ans pour retrouver votre famille qui donc avait immigré à l'époque, donc non pas aux États-Unis comme en Amérique comme vous l'aviez supposé, mais un peu plus bas en Argentine.
Dans un premier temps, j'avais même pas supposé qu'elle avait traversé l'océan. Je pensais qu'elle éventuellement elle aurait pu être à Toulouse. À Tarbes, à Bayonne, à Paris, évidemment,
en France. Ouais.
Et progressivement, avec les espèces de recherches que je faisais à l'époque par courrier, je n'arrivais à rien. Et je me suis dit que, à ce moment-là, au 19e siècle, fin du 19e siècle, de notre Bigorre, les gens partaient en Amérique. Aux Amériques. C'était aux Amériques.
Et il y a eu beaucoup d'immigration du Pays Basque, effectivement,
les Basques énormément. Bon, j'explique tout ça après. Oui. Historiquement, il y a tout l'historique de cette émigration. Comment ça s'est passé? D'abord les Basques, effectivement, puis les Béarnais, les Bigourdans, les Ariégeois, les Comminjois, etc. Mais une émigration importante, puisque ici, sur les Hautes-Pyrénées, on estime qu'il y a eu 25 000 personnes qui ont émigré de 1850 à l'entre-deux-guerres. C'est énorme pour 474 communes du département, une population qui s'ampute de 25 000 personnes en 50 ans, c'est énorme.
Oui, le pourcentage est important à l'échelle d'un département, oui.
Ben, toutes les familles...
C'est quoi, la pauvreté qui les a fait partir? C'est la dureté? Parce que même si on voit les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents, on voit de très belles photos, et le respect que vous avez dit tout à l'heure, oui. Il y a la dureté quand même. La dureté du travail, la dureté aussi des mœurs, parce que les anciens n'étaient pas faciles. Hein.
Alors, la raison principale qui peut être de base, la raison de base, c'est effectivement la pauvreté. Pas la misère, mais la pauvreté.
Et la dureté.
Et la dureté du monde de l'époque, bien qu'il y ait du respect. La personne qui, puisque nous étions dans un monde rural, un monde d'économie primaire, la personne qui héritait de la maison et des terres, c'était l'aîné, qu'il soit
le droit d'aîné,
garçon,
ça.
Ouais. Voilà, le droit d'aîné, c'est qu'il soit garçon ou fille. C'est une particularité de notre Bigorre de la Gascogne, où la fille peut hériter,
et non voilà. Pas uniquement le garçon.
Exactement. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont les ouvriers non salariés du fils ou la fille aînée, à vie. Parce que si l'aîné vit indéfiniment, les autres n'ont qu'une chance d'accéder à la propriété. Ce n'est pas une fin en soi, la propriété. Déjà, l'aîné, avant d'hériter de son père, il fallait que son père décède. Et si son père vivait très longtemps, et il n'était pas propriétaire de la maison et des terres pendant très longtemps. Hein. Bon, si le père décédait vers 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça, il y avait un espoir d'avoir une propriété à soi pendant plus longtemps. Vous voyez, tous ces problèmes-là qui s'enchaînent les uns dans les autres, on ne les perçoit pas comme ça. On se dit, le droit d'aîné, c'est ouais. Mais le droit d'aîné, c'est d'hériter de quoi ? Mais de rien. Souvent, de rien. C'est du travail, surtout.
Du travail.
Ouais.
Du travail et de la vie des parents et des grands-parents avant.
Et oui, puisque nous vivions en génération empilée dans les maisons. Oui. Vous aviez 3-4 générations qui vivaient sur la même propriété, des fois de 7 ou 8 hectares, des fois de 15 hectares. Mais...
Et pas plat, pour certains.
Et voilà.
Et pas plat.
Et
c'était aussi la dureté du travail, c'est que on ne pouvait pas...
Et il y avait du travail, pardon.
Mécaniser les choses, parce que...
Je ne sais pas si vous avez vécu à la ferme. Moi, quand j'étais gamin, chez mes grands-parents, on était en travail permanent. Hein.
Ouais.
Moi, j'étais affecté à garder les vaches, notamment, etc. Tirer les vaches aussi. Mais vous aviez peu d'instants de loisirs. Hein. Quand on n'était pas au travail, il y avait le culte, parce qu'il y avait quand même toute l'emprise de la religion. Il y avait les messes, les vêpres, toutes les fêtes religieuses. Moi qui étais enfant de cœur jusqu'à 16 ans, je vous assure que le matin, avant l'école, 7 heures, aller servir la messe de 7 heures. Le dimanche, servir la messe de 7 heures et la messe de 11 heures, parce qu'on en faisait deux. Là. Et l'après-midi, les vêpres à 15 heures. Ça vous occupait une partie du temps, vous n'aviez pas le temps. Ça n'existait pas, le portable et compagnie. Mais on n'aurait pas eu le temps de faire beaucoup du portable.
Oui.
On dérive un peu de Marceline, mais...
Non, mais on parle du
contexte. Du contexte.
Nos auditeurs qui ont peut-être, pour certains plus âgés, ont connu ça ou savent de quoi vous parlez.
Pas mal ont connu, de moins en moins, parce que, bon, ça passe.
Ce livre, Jean-Paul Abadie, Si loin des Pyrénées, Baptistine, Marceline, vous a entraîné dans une aventure incroyable, passer quelques journées dans une cave d'un notaire pour essayer de trouver des indices.
Notamment.
Beaucoup auraient abandonné en disant « bon, ben voilà, je trouve pas, j'y arrive pas ». Un regret quand même, parce que en préparant cet entretien, vous me disiez, et je sentis même un petit peu de colère, vous avez raison, c'est que quand vous écriviez aux archives départementales, quand vous écriviez aux mairies, à l'état civil des mairies, zéro réponse. On ne vous répondait pas.
Mais bon, on comprend, parce que si un tas de personnes comme ça...
Non, mais c'est leur travail.
Oui. je ne sais pas si c'est leur travail de répondre aux courriers. Bon, actuellement, je pense que... par internet, ça, c'est possible, mais il fallait prendre la plume à l'époque. Et on n'était pas encore dans cette euphorie de la recherche génétique de ses ancêtres, de cette notion de retracer toutes ses origines, cette généalogie que l'on s'est mise à faire J'ai été un peu en avance sur cette époque-là, parce que ça a dû commencer dans les années 82-85.
Et vous avez 10 ans d'avance, c'est quoi ?
Oui, mais bon, c'est jamais bon d'être en avance sur son temps. On est toujours déphasé.
Et donc, vous avez... Alors, du coup, il a de la patience, mais il y a aussi de l'argent, parce qu'il a fallu que vous déplaciez pour aller chercher les informations à la source. Donc, ça, bien sûr, c'est un coût de se déplacer. Voilà. Et puis.
On consacre de l'argent à ça et pas à autre chose.
Pas autre chose, oui.
Vous fumez pas, vous buvez pas, mais vous êtes intéressé par la recherche de traces qui sont peut-être illusoires, que vous allez. Rien n'est garanti, vous n'allez pas trouver peut-être, vous allez rester.
Oui, peut-être que vous n'auriez plus.
Longtemps, j'ai eu cette angoisse au creux du ventre, là, de me dire jamais je vais rien trouver.
Vous me disiez que vous aviez eu une épouse et des enfants. À un moment, cette passion pour, et cette recherche, cette quête pour retrouver Baptistine et Marceline, qu'en pensait votre famille proche ?
Ils disaient, bon, ils cherchent, mais ils ne trouveront jamais. C'est un peu dans l'illusion, dans le rêve. Mais je me suis accroché. Voilà,
quand on a envie de quelque chose, on n'écoute pas, on fonce.
Exactement.
Ça vous a amené quand même...
Les rêves, il faut arriver à les réaliser.
Et vous avez été très déçu, parce que vous avez fait quand même un voyage aux États-Unis.
Oui, en 84. Oui.
En 84. Et
c'était les Jeux Olympiques, mais je n'étais pas allé aux États-Unis
pour
les Jeux Olympiques.
Vous avez été là-bas en pensant que vous trouveriez des traces, et vous êtes revenu bredouille.
Absolument.
Et là, une grande déception.
Ben oui, parce que j'aurais pensé que peut-être Marceline avait émigré comme beaucoup de bigourdans de la région de Trie-Lannesan, émigré en Louisiane. Et lorsque je suis allé à Nouvelle-Orléans, à la Public Library, j'ai beaucoup cherché et j'ai rien trouvé. C'était décevant. J'ai trouvé beaucoup de bigourdans de chez nous, avec tous nos noms, etc. Mais non, pas elle, hélas.
Et donc, grand regret, peut-être certains auraient dit, bon, mais voilà, ça m'a coûté quand même beaucoup d'argent d'aller aux États-Unis.
Je n'étais pas allé uniquement pour ça, c'était une découverte des États-Unis également.
Oui, également.
Voilà.
Mais vous revenez bredouille, et là, vous continuez quand même, vous accrochez, vous continuez jusqu'à trouver un document, donc, qui a été déclencheur un peu.
J'ai fouillé dans les greniers de chez mes parents, et j'ai fini par trouver un petit bout de papier, qui a été le déclencheur. Mais ça met beaucoup de temps dans la tête de se dire, tiens, ce bout de papier, c'est pas une lettre, c'est quoi ? C'est un griffonnage. En fait, avant que je comprenne que c'était le double d'un acte notarial, ça a mis beaucoup de temps. Et après, il fallait trouver quel était le notaire, parce que le notaire de cette époque-là, il y a longtemps qu'il avait disparu de la circulation. Où étaient ces minutes, etc. Et j'ai eu la chance que mon notaire...
Qu'est-ce que vous appelez les minutes, pour les gens qui ne connaîtraient pas ?
Alors, les minutes, ce sont tous les écrits d'actes civils, mariage, les partages également, les partages de terres, de propriétés, tout est notarié, tous ces documents.
Un acte notarié, c'est une minute.
C'est une minute, voilà.
D'accord.
Et qui sont reliés par année, tous les ans, chez le notaire. Bon, maintenant, informatiquement, ça doit être différent, mais heureusement qu'à l'époque, tous ces documents papier ont survécu et ont été transmis de notaire à notaire. Bon, il y a eu une collecte par les archives départementales. Actuellement, tous ces registres sont aux archives départementales.
Ils ont été numérisés, c'est ça ?
Et ils sont numérisés, voilà. De façon à ne pas les esquinter par la lecture, tous les gens qui veulent chercher, etc. Voilà.
C'est loin des Pyrénées, Baptistine Marceline et ses rêves d'Amérique. Ce petit bout vous donne un indice au bout de quelques temps. Vous dites, c'est dans les registres. Vous allez voir le notaire, vous trouvez le notaire, vous le connaissez, il vous autorise
à fouiller
ses archives. Il a fait les archives de l'ancien.
En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que il n'avait rien rangé. Tout ça était en tas, vraiment empilé dans son sous-sol, sous la poussière et l'étoile d'araignée. Et j'ai eu beaucoup de chance malgré tout. Bon, je me suis mis à chercher plusieurs fois. Je m'y suis rendu plusieurs fois. Et j'ai fini par trouver ce que je voulais trouver. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans beaucoup de domaines malgré tout. Parce que ces archives-là, toutes ces minutes, les archives départementales sont venues les collecter quelques semaines après que moi je me sois rendu sur les lieux. Je serais arrivé un peu plus tard.
Eh oui.
Avant de les avoir disponibles aux archives départementales,
il aurait pris encore plus de temps.
Encore plus de temps.
Et là, il y a un indice. On vous trouve en Amérique du Sud, voilà. Et là arrive donc l'Argentinien.
Dans l'un des registres, je trouve un papier replié que je déplie et je vois. Et Marceline, effectivement, qui est dans un acte rédigé à Rosario, en Argentine. Rosario que je ne connaissais pas, je connais Buenos Aires, je connais Tucumán, mais pas Rosario.
Et là où joue aussi un rôle important dans cette aventure et dans cette recherche, cette quête de retrouver la cousine de votre père. Hein,
oui, cousine Germaine.
Germaine,
en plus.
C'est Garrison.
Entre Garrison dans le jeu. Effectivement, parce que je me dis comment rentrer en contact avec l'Argentine. J'écris à nouveau à l'ambassade, au consulat, rien, bon, pas de réponse. Et je me dis quand même comment je vais pas aller en Argentine comme ça, débarquer. Et je me dis, les pères de Garrison avaient ou ont encore peut-être, je suppose, des missions sur place, parce que je savais depuis que j'étais tout gamin chez mes grands-parents où j'ai été élevé, revenait tous les étés une personne qui s'appelait les Pères Ueras, qui était en mission à Catamarca et à Tucumán, San Miguel et Tucumán, donc je connaissais en Argentine ces lieux-là. J'avais situé sur la carte, mais Rosario, je ne connaissais pas. Donc je me dis, peut-être qu'il y a encore des pères de Garrison qui font l'aller et venue entre les succursales, entre guillemets, et l'institution Notre-Dame de Garrison. Ce sont les pères lourdistes, hein, il ne faut pas oublier que ce sont les pères lourdistes. Et donc j'en contacte un premier, bon, qui s'occupe de rien. Et un de mes amis qui est prêtre, un prêtre espagnol venu en mission à Notre-Dame de Garrison, avec qui j'étais bien lié en amitié, me dit moi je vais partir dans quelques temps et pour 6 mois à travers l'Argentine en mission. Si tu veux, je vais essayer. Tu me donnes ce que tu as. Donc j'avais très peu de documents, hein, peu de renseignements. Effectivement, je lui donne ses petits renseignements. Il part au bout de quelques mois. Il arrive à Buenos Aires. Il prend la guille, l'annuaire téléphonique. Et il cherche Abadi, Castex, puisque c'est Marceline. Après que les actes que j'avais vus chez le notaire étaient mariés à Monsieur Castex. Donc,
c'est marié ici en France.
Non. Donc Juan Carlos Martinez prend donc cet annuaire, il voit à Colón, Entre Ríos, Castex Pharmacie et Castex Notre, et il prend le téléphone, il appelle et une dame lui répond, Lia Castex, qui lui dit oui, on pense qu'on descendait des Basques, mais on n'a jamais cherché, ça nous a jamais vraiment intéressé, mais si vous voulez, venez, on cherchera au presbytère ou à l'église des documents pour voir si on trouve quelque chose. Effectivement, le lendemain matin, il prend le bus, il fait les 350 kilomètres, il voyage toute la journée, il arrive...
Sympa quand même, sympa.
Très sympa, hyper sympa. Un grand pas dans ma recherche. Il arrive à Colón et il va à la pharmacie à Saint-Hélario. Lia le reçoit, voilà, elle l'héberge. Le lendemain matin, ils vont au presbytère, à l'église, bon, ils trouvent rien. Et Lia lui dit, mais l'état civil, et c'est le premier d'Argentine qui a été mis en place ici à Colón. On pourrait aller voir à la mairie et il y aura des documents de... Effectivement, ils vont à la mairie, une dame leur facilite la recherche, et évidemment, ils découvrent les actes de mariage, les actes de naissance, l'acte de mariage de Marceline, les actes de naissance de ses deux enfants, en sachant que Elle a eu ses deux enfants avant de se marier, là-bas, en Argentine. Et toute une histoire que je raconte dans mon ouvrage, parce que son mari est parti un peu en fraude, en laissant ici son épouse à Aner. Il était toujours marié en partant avec Marceline. En France, il était toujours marié. Donc, il ne pouvait pas se marier dans un premier temps là-bas, en Argentine, avec Marceline. Ils ont eu deux enfants et ils n'ont pu se marier que lorsque la première épouse de François Castex, ici, est décédée. C'est toute
cette histoire qu'on peut retrouver dans votre livre « Si loin des Pyrénées, Baptistine, Marceline et ses rêves d'Amérique » aux éditions Lafon des Ménates.
Je suis en auto-édition et je distribue moi-même l'ouvrage, mais on le trouve au Vendémot à Lannesan, on le trouve au Méridien à Ibos, on le trouve à la FNAC à Cavaer, voilà. On le trouve à Trie-sur-Baïse, à Maison de la Presse. On le trouve également à Boulogne-sur-Gesse, à Saint-Gaudens.
Voilà. Donc Jean-Paul Abadie qui a écrit d'autres livres, ça c'est son dernier. Ils sont tous, si vous êtes nostalgique du temps,
Il n'y a pas uniquement de la nostalgie. Moi, ce qui me fait. Enfin, le moteur, c'est la transmission. Évidemment, il y a un peu de nostalgie, mais. J'ai besoin de transmettre toute cette époque que nous avons vécue et que tout le monde semble oublier parce que on a l'informatique, tout est possible avec des boutons. Mais non, la vie, ce n'est pas ça. Enfin, c'est le respect qu'on a vis-à-vis de nous, entre nous, mais également nos ancêtres, nos descendants éventuellement, puisque on a un respect à avoir avec ceux qui vont nous suivre.
Les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents, le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents. Jean, le dernier paysan, face aux Pyrénées et aux pas de Jean et de ses vaches Gascogne et Pyrénées. Et puis le dernier donc, qui vient de sortir, Si loin des Pyrénées, Baptistine, Marceline et ses rêves d'Amérique, qui va se lire un peu aussi comme une enquête policière. Quand on veut retrouver... quand on veut réellement trouver ses origines.
Oui, puisque ce livre, enfin, ma recherche a conduit à la création. Je suis à l'origine de l'association Bigorre Argentine-Uruguay, là-bas où, dont j'ai été président fondateur pendant 15 ans, voilà, et qui a permis de mettre en relation plusieurs familles des Hautes-Pyrénées avec leurs familles argentines, uruguayennes, même en Louisiane. Voilà.
Voilà, eh bien, il fallait des fois démarrer et vous avez donné cet élan. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul Abadie de venir sur Radio Présence nous parler de votre
Philippe.
Livre, prendre l'été aussi, prendre pendant cet été le temps. C'est aussi un livre qui peut se lire pendant cette période estivale.
Absolument.
Une enquête...
Mais il faut le lire de bout en bout, pas picorer dans le livre, parce que c'est une... c'est fluide comme lecture, je pense, mais il faut suivre le déroulé du livre.
Oui.
Parce que si on prend des chapitres comme ça au hasard,
c'est pas bon. Non, mais tu recommandes, on prend un livre, on le commence...
Non, mais des fois, on peut... bon.
Merci beaucoup. Donc, on rappelle la dernière fois le titre de votre livre, « Si loin des Pyrénées, Baptistine, Marceline et ses rêves d'Amérique ». Vous avez donné les endroits où on peut vous le... Et si on vous le commande directement, comment on fait pour vous joindre?
Alors, par mon numéro de téléphone, si vous voulez, 06 83 87 01 57.
Voilà.
Mon adresse mail, si vous voulez.
Et votre adresse mail, c'est...
Alors, Jean-Paul tout attaché.
Jean-Paul tout attaché.
Point. Abadie, A-B-A-D-I-E.
Oui, parce qu'il y a des Abadie avec deux B.
Voilà. @gmail.com.
Voilà, gmail.com. Jean-Paul.abadie. Jean-Paul, bien sûr, tout attaché sans tirer. Jean-Paul.abadie@gmail.com. Et vous pouvez donc rentrer
et en contact avec vous. Vous pouvez même contacter Philippe Subercase.
Voilà, à ici Radio Présence,
qui vous transmettra les coordonnées.
Et on transmettra, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Merci à vous, Philippe.
Au revoir.
Présence dans la cité mariale 96.
Allez, on fait les services après-vente, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous appeler. Nous continuons cette fois-ci avec l'information et nous retrouvons pour cela Clémence Roux qui est élève et qui est étudiante plutôt à l'école du journalisme de Toulouse. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, la France renforce les contrôles à sa frontière avec l'Espagne. Après l'arrivée de plusieurs migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, de nouveaux points de contrôle ont été installés en Haute-Garonne et un troisième dans les Hautes-Pyrénées. L'objectif est de mieux surveiller les principaux axes de circulation entre les deux pays. En Ariège, les pompiers restent fortement mobilisés après plusieurs incendies. Le principal feu qui s'est déclaré à près de 1800 mètres d'altitude est désormais fixé. Mais d'autres foyers restent actifs ou sous surveillance. Dans un contexte de forte chaleur, de sécheresse et de vent, les conditions restent particulièrement favorables au départ de feu. À une semaine des championnats d'Europe de natation, Léon Marchand entretient le doute. Le nageur toulousain blessé à un adducteur lors des championnats de France fin juin, puis victime d'une rechute pendant sa préparation, ne sait toujours pas s'il pourra s'aligner sur le 400 mètres de 4 nages prévu dès le premier jour de la compétition. Autre dossier, la dermatose nodulaire contagieuse. Après les éleveurs, l'État va désormais indemniser les entreprises de la filière bovine. Les aides concerneront notamment les abattoirs, les transporteurs et les entreprises de transformation pénalisées par les restrictions sanitaires mises en place pour contenir l'épizootie. Dans le Lot, la lavande retrouve un peu sa place dans les paysages, quasiment disparue dans les années 1960 avec le développement des traitements chimiques. Cette culture renaît aujourd'hui grâce à des producteurs qui misent sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement et sur les circuits courts. Enfin, toujours dans le Lot, la tonte de moutons attire de nombreux passionnés. Bien plus qu'un simple savoir-faire agricole, cette pratique est devenue une véritable discipline de compétition. Les participants sont départagés sur leur rapidité, leur précision et leur technique, tout en veillant au respect du bien-être animal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Et un grand merci à Clémence Roux qui, malgré les vacances, est toujours avec nous sur Radio Présence. Le retour de l'actualité, c'est à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Tout de suite, c'est une invitée prestigieuse que nous avons au micro de Mathias Terrier pour les magazines De Passage à Lourdes.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui la joie, l'honneur de recevoir deux invités exceptionnels, deux témoins exceptionnels de Lourdes, à savoir Madame Antonia Racco, 72e miraculée de Lourdes, et le président du bureau des constatations médicales, qui est le docteur Alexandro Di Francesis. Bonjour Madame.
Bonjour.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission dont le principe est de témoigner. Et justement, madame, je me tourne d'abord vers vous, puisque votre vie, oserait-on dire, a changé profondément à partir de cette année 2019 où vous êtes arrivée à Lourdes malade. Vous avez vécu dans votre corps une guérison. Le docteur est là pour nous dire quelles sont les douleurs et ce que vous viviez, et puis ensuite, ce qui s'est passé. En 2009, donc, vous vivez ce changement essentiel. Mais j'aimerais d'abord vous interroger sur le témoin que vous êtes devenu, le témoin de la foi.
Stare, cioè la, l'emozione più forte l'ho avuta quando nel 2009 mi sono alzata in piedi, che ho capito che ero guarita.
Je le vis avec grande simplicité. L'émotion plus forte, ce fut quand en 2009, je suis rendu compte d'être guéri. Mais désormais, non, je témoigne dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne et aussi dans mon engagement dans la vie d'église.
Diriez-vous que vous êtes devenu un témoin de l'espérance?
Sì, perché io penso che il Signore si è fatto presente.
Elle répond à votre question, oui, sans doute. D'ailleurs, elle a dit, le Seigneur est toujours présent dans les vies de ses amis et il nous fait don de l'espérance. Et ça, c'est encore plus vrai pour les gens qui vivent un moment de difficulté.
Madame Racco, vous qui êtes devenue donc un témoin de l'espérance, vous devez aussi vous interroger, mais pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné cette grâce? Vous vous posez encore cette question aujourd'hui?
Me lo sono chiesto fin dal primo momento, ma non c'è mai stata risposta.
Je me le suis demandé du premier instant et je n'ai jamais trouvé de réponse.
è un mistero, noi non sappiamo qual è il disegno di Dio, noi dobbiamo solo prendere e offrire quello che ci viene offerto giorno per giorno.
C'est un mystère, je le considère un don de Dieu. Sono... On ne peut pas savoir pourquoi Dieu fait un don, il faut prendre les choses le jour par jour.
Siamo tutti uguali agli occhi di Dio.
Devant Dieu,
nessuno è migliore di un altro.
E personne n'est meilleur que l'autre.
Lorsque vous rencontrez des personnes en souffrance, des personnes malades, il est difficile de trouver des mots pour les réconforter. Qu'est-ce que vous leur dites?
Prima li ascolto.
Première chose, je les écoute.
Li ascolto. Et poi condivido con loro la malattia.
Et après, je partage sofferenza. Avec eux leurs histoires de souffrance et de maladie.
Et da lì parte tutto.
Et di là, tout est part.
Parte tutto, ci sentiamo. Alcuni li ho già persi per strada, altri stiamo proseguendo insieme.
On reste en contact. Elle utilise beaucoup le texto, donc elle reste en contact le texto con i messaggini, vero?
Sì.
Et certains les a déjà perdus, probablement ils sont morts, je sais pas.
Vous avez été guéri en 2009. Et est-ce que vous vous souvenez des souffrances que vous viviez avant 2009?
Sì, sì. Ci sono stati i momenti di sconforto, ma è normale.
Oui, elle a vécu la souffrance et l'angoisse de la maladie, mais la foi l'a énormément aidée. Elle priait spontanément en demandant au Seigneur de lui donner force. Elle pleurait, mais elle profitait surtout des moments où elle n'est pas vue. Par exemple, elle a dit lorsqu'elle voyait que son mari sortait de l'appartement pour aller faire des courses, c'est là qu'elle se laissait aller, commençait à pleurer. Mais après avoir pleuré, et le conforter avec des lectures de l'Évangile. Et l'épisode qu'elle a plus touché pendant la maladie, lorsqu'elle voyait que la maladie s'aggravait, elle commençait à avoir difficulté à avaler, elle avait difficulté à respirer, eh bien, elle priait le Seigneur du jardin des Oliviers. Parce que là, l'angoisse que Jésus avait vécue, elle lui disait dans sa prière, « Seigneur, tu ne t'es pas échappé, tu as affronté ce qui est venu après ce moment d'angoisse, tu n'es pas parti. » Donne-moi une partie de la force que tu as vécue à ce moment.
Madame Racco, est-ce que cette double expérience de la souffrance que vous avez vécue et puis de la grâce de la guérison vous donne la force aujourd'hui de témoigner auprès de ceux qui souffrent le plus?
Si, li vedi. Alcuni all'inizio hanno un po' di, come dire...
Sans doute, oui, parce que les gens comprennent qu'elle a vécu l'expérience, donc elle est crédible. Mais elle a dit, surtout parce qu'elle comprend, alors elle pense et le partage avec elle cette pensée, si le Seigneur t'a fait ce don à toi, peut-être qu'un jour il le fera à moi aussi. Et donc ça l'aide à entrer en relation avec les gens qui souffrent.
Dans la deuxième partie de cette émission avec le docteur Di Francesis, nous parlerons de votre maladie, de toute l'enquête médicale et tout le processus de reconnaissance. Mais c'est encore la témoin de la foi que j'ai envie d'entendre. Nous sommes dans une société, en particulier la société occidentale, où on doute beaucoup de Dieu et on remet en question la foi. J'imagine que vous, vous êtes très sollicité pour témoigner et parfois même remis en question par ceux qui doutent de la foi.
Sì, questo è anche motivo di dolore, ma penso non per me, ma per tutti.
C'est vrai que vous dites, c'est vrai, mais cette douleur, ou la douleur de cette confrontation là, entre les doutes sur Dieu, la foi et tout ça, c'est la douleur pour tout le monde. Il suffit, elle dit, de regarder le temps que nous vivons, les guerres que nous voyons, les souffrances des pauvres et des personnes malades. Elles disent en grand « si ». Si nous aurions le temps de réfléchir sur l'Évangile et sur ce que Jésus a prêché et témoigné, sans doute aujourd'hui on vivrait beaucoup mieux. Malheureusement, on est très attaché au superflu, aux choses qui ne servent pas vraiment. Peut-être que pour nous les croyants c'est un tout petit peu plus facile, mais d'ailleurs, elle se dit à la fin de son intervention, la conversion c'est un mystère et c'est tout dans les mains de Dieu.
Pour ceux qui nous voient, qui vous voient à l'image, ils peuvent penser que vous êtes une sœur. Vous avez une coiffe, vous êtes tout habillée de blanc. Et on voit un petit badge ici, Unitalsi. Expliquez-nous comment vous êtes vécu et dites-nous que vous n'êtes pas une sœur, une religieuse.
Io ho conosciuto questa associazione l'anno che sono venuta a Lourdes.
J'ai connu cette association, l'unité aussi, l'année que je suis venu à Lourdes, c'est-à-dire en 2009.
È un'associazione che si occupa proprio di accompagnare gli ammalati in tutte le loro necessità.
Notre association s'occupe d'accompagner les malades en pèlerinage dans toutes leurs nécessités.
Da quando poi è successo, da subito è successo quello che è successo, io ho detto quello che loro hanno fatto a me, io lo voglio fare anch'io.
Et donc, immédiatement après che m'est arrivé ce che m'est arrivé, c'est-à-dire sa guérison, je me suis dit il faut que je fasse, j'ai beaucoup reçu par ce pèlerinage à Lourdes, il faut que je fasse le même pour les autres.
Non è la divisa che conta, ma è quello che c'è nel cuore.
Ce qui compte è dans le cœur. E siete molte che fate servizio in questo pellegrinaggio? Quante sorelle siete di assistenza?
Di numero non lo so, ma siamo parecchi per assistere.
Il pellegrinaggio attuale che è presente, il personale benevole è très nombreux. Il y a des messieurs avec la sorte de veste bleue qui sont les brancardiers et les infirmières bénévoles. En tenue d'infirmière avec le voile blanc, mais sont des bénévoles.
Nous allons nous arrêter quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, je propose que nous parlions de votre histoire médicale, puisque ceux qui ne la connaissent pas se disent « Mais qu'est-ce qu'elle avait, Antonia Racco ? Quel est ce prodige qui est survenu dans sa vie pour devenir un miracle de Lourdes ?» Nous en parlons juste après ceci.
Tell nobody. de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nos invités aujourd'hui, je l'ai dit, sont exceptionnels. Il s'agit de vous, Madame 72e miraculée de Lourdes, Antonia Racco, et vous, docteur Alexandro Di Francisi, vous êtes président du Bureau des constatations médicales. Docteur, quand avez-vous rencontré pour la première fois Madame Racco? Dès 2009, date à laquelle survient cette guérison dans sa vie?
Non, en réalité, c'est en 2010. Mais imaginez-vous que j'ai connu l'histoire de la guérison de Madame Racco d'abord par Monseigneur Perrier, l'ancien évêque de Lourdes. Car l'évêque de Madame Racco lui avait écrit un courrier en 2009 en lui disant de cette guérison qui était survenue à la rentrée du pèlerinage. Monseigneur Perrier s'est tourné évidemment vers moi, nouveau médecin du bureau des constatations, en me demandant comment répondre poliment en italien que c'était pas à lui qu'il fallait lui dire, mais que la personne devrait librement venir et déclarer sa guérison supposée. Chose qui était faite. Et effectivement, Madame Racco est venue avec son mari en mars 2010 à Lourdes que pour remercier la Vierge et déposer sa déclaration de guérison. Après, elle reviendra en forme, disons, publique à juillet 2010, lorsque elle a ré-témoigné de sa guérison en présence de la première des 5 réunions du bureau des constatations que j'ai convoquées au sujet de cette guérison supposée. Donc, on a une série de réunions dans lesquelles j'ai cherché toute forme d'expertise externe à celle qu'elle avait déjà suivie. Alors, le diagnostic de sclérose latérale primitive ou primaire a été déjà posé par son neurologue traitant, le professeur Kyo de l'Université de Turin. Je demande donc l'avis dans la réunion annuelle du Comité médical international à notre neurologue du CMIL, le professeur Jean Pouget de la Faculté de Marseille, ancien président de la Société française de neurologie et membre du CMIL. Je lui dis, je cherche un expert indépendant, c'est-à-dire non le professeur Kyo, qu'elle a suivi à Turin déjà depuis quelques années. Mais madame ne parle qu'un italien, donc il faut un italien. Et lui m'a dit, pas de doute, il faut que vous tourniez vers le professeur Vincenzo Silani, qui est fait autorité en matière. J'ai écrit un long courrier au professeur Silani, en lui demandant, disons, de nous aider, et il est accueilli avec générosité et compétence, il a dit oui. Donc madame a été en 2013, elle a passé 2 jours dans le service du professeur Silani, qui a conclu une longue expertise de plusieurs pages, qui est vraiment un chef d'œuvre d'expertise médicale, du sérieux, du documenté, du bien expliqué, comme quoi il confirme que Madame Racco était atteinte de sclérose latérale primitive et qu'il n'y a pas d'explication pour la disparition de cette maladie que lui et ses confrères neurologues au niveau mondial n'avaient jamais observée auparavant. Fort de cette expertise, on est allé à la 5e et dernière réunion du bureau de constatation qu'on a gardée en juillet 2017. Il faut attendre après le CMIL 2019 pour le premier vote sur ce dossier. Eh bien, le professeur Jonquet, actuel président du Comité médical international de Lourdes, c'était une condition vraiment incroyable. Nous décidons le CMIL comme Rome à la consulta médica pour les miracles, disons, des guérisons, pour les béatifications et les canonisations, on décide avec un quorum de 2/3. Donc le comité médical, qui est réuni sous la coprésidence de l'évêque de Tarbes et Lourdes, décide, en confirmant, en rejetant une guérison constatée par le bureau de constatation, par 2/3. Et là, on a fait la moitié parfaite. Il y avait 50% qui pensaient que madame était effectivement guérie, mais n'était pas sûr que c'était sclérose latérale primitive. Et une autre moitié qui pensait que madame était effectivement malade de sclérose latérale primitive, mais on n'était pas sûr que c'était guéri. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, le vrai miracle, c'était l'attente. Parce que Covid 2020, l'année 2021, une publication scientifique de grand niveau sur un journal international, dont l'un des auteurs, c'est le professeur Silani, c'est lui de 2013, ils nous disent qu'aujourd'hui, le diagnostic est fait, qui n'est pas des critères cliniques, que c'était le point d'attention que justement le confrère avait posé. Donc on a avancé et en 2024, il est sorti en début 2024 un travail qui confirmait qui validait ce critère. Donc, du point de vue des publications scientifiques au niveau mondial, cette guérison était sûrement la guérison d'une sclérose latérale primitive, et sûrement, il n'y a pas de précédent à la littérature scientifique. C'est à ce moment que le coprésident du CNIL, professeur Olivier Jonquet de l'Université de Montpellier, a mis à l'ordre du jour la discussion de ce cas en novembre 24. On a voté, et le vote, vous le savez bien, parce que vous êtes un ancien de l'autre, c'est un vote secret, sur un bulletin pré-imprimé, oui, non, de manière qu'on respecte le total anonymat du votant. Eh bien, nous comptons les oui et le non, et là, il y avait en novembre, sous 21 votants, 17 oui et seulement 4 non. Donc, on a pu, avec totale confiance, affirmer que Madame était atteinte de sclérose latérale primitive, les différentes expertises, on l'a déjà rappelé, et que c'était guéri de manière sans explication connue. C'est à ce moment, c'est la quatrième étape, après celle de la déclaration de guérison, la constatation de la guérison, la validation par le Comité médical international de l'Aude, la quatrième étape est l'étape diocésaine. Et là, nous sortons de scène, les médecins, c'est l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, dans le cas échéant, Monseigneur Jean-Marc Mika, qui a écrit à l'évêque de Madame Rarco en lui disant tout ce que je viens de rappeler à nos auditeurs. Eh bien, effectivement, les évêques font ce qu'ils croient plus opportun. Dans ce cas, l'évêque a décidé de nommer une commission canonique et d'avancer dans l'étude du dossier en reconnaissant cette guérison inexpliquée pour nous médecins être pour lui, évêque, un miracle.
Et la reconnaissance a eu lieu le 16 avril 2025. Madame Racco, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé entre ce 30 juillet et ce 5 août 2009 aux piscines de Lourdes? C'est à ce moment-là que tout se passe.
Si. La mattina mi hanno accompagnato le volontarie in piscina e le volontarie là della piscina mi hanno aiutato a svestirmi e mi hanno avvolta in un mantello azzurro e poi si è aperta un'altra tenda dentro a questa stanza ed è uscita un'altra volontaria e mi hanno fatto cenno di entrare ma io non potevo alzarmi e così loro...
Elle était accompagnée aux piscines, elle ne pouvait pas marcher, elle était invitée à entrer dans la première partie de la vasque, disons là où on peut se déshabiller, mais elle n'était pas capable de se déshabiller toute seule, donc les bénévoles hospitalières qui étaient présentes l'ont aidée à se déshabiller. Et après, elle a été invitée à entrer encore plus dedans, les gens plus à côté de la vasque. Et pour les pèlerins qui ont connu les piscines de Lourdes, c'est clair l'image, peut-être pour les noms, oui. C'est un peu plus différent.
Donc là, vous allez être plongé dans l'eau de la source.
Oui, mais ça, c'est avant. C'est parce avant. Qu'elle ne pouvait pas. Alors, elle nous dira, elle a été aidée à marcher, mais justement, ils l'ont mis un peigne bleu pour couvrir sa nudité, disons. Et c'est à ce moment...
E poi loro mi hanno aiutato ad entrare in quest'altra stanza, una a destra e l'altra a sinistra mi sorreggevano.
Due bénévoles ont pris l'une à droite e l'altra a gauche pour la soutenir.
E un'altra dietro mi spostava prima una gamba e poi l'altra a piccoli passi.
E un'altra derrière l'a aidé à pousser ses jambes, parce qu'elle ne peut pas marcher, on l'a dit, non? Et l'a poussé doucement à avancer vers le baignoire, disons. Elle était après... mis une autre, la chemise, on l'appelle au piscine la chemise, blanche, et donc à ce moment, elles ont fait une prière, on priait tous ensemble.
Ed è stato in quel momento...
C'est à ce moment que j'ai entendu comme une caresse sous mon cou, je pensais que c'était l'une des bénévoles.
E non era la volontaria.
Et c'était pas la bénévole.
E ho sentito una bellissima voce di donna giovane.
Et j'ai entendu une voix très belle, d'une femme jeune, une voix magnifique, qui m'a dit pour trois fois, elle m'a dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». C'est en ce moment qu'elle a éclaté en larmes et elle a commencé à prier pour les intentions qu'elle avait portées dans le cœur en venant à Lourdes.
Et les intentions étaient pour moi la paix et la force.
Les intentions, c'était pour elle-même la paix du cœur et la force de le soutenir. Et elle demandait par contre la guérison d'une enfante de son pays, de son village, de sa ville, disons, en Italie. Dès l'entretemps, les bénévoles m'avaient déjà immergé dans l'eau de la vasque.
Et in quel momento sento...
C'est ce moment que j'ai une douleur épouvantable à mes jambes, qui ne m'a pas distrait de ma prière.
Ho continuato a pregare piangendo.
J'ai continué à prier en pleurs, en larmes. Et après, les bénévoles l'ont réaccompagné vers l'extérieur et s'est réhabillée. Elle ne disait que, elle a été bellissimo, elle a été magnifique, elle était très beau, mais elle n'a rien dit de cette expérience particulière qu'elle vient de partager.
Quand avez-vous dit pour la première fois, et à qui, que vous étiez guéri?
Quando sono tornata a casa.
Quand je suis rentré chez moi la semaine suivante,
dalla sedia passo sopra il divano.
Elle est montée dans l'appartement accompagnée par son mari, qui n'était pas en voyage. Son mari était resté chez lui. Le mari, donc, l'après l'a pris. Elle est arrivée à la maison, à l'appartement. De là, le mari l'a aidée à sortir du fauteuil roulant et à passer sous un fauteuil.
Poi ha preso la sedia, l'ha messa in un angolo
il
della casa.
Il a pris le fauteuil roulant et l'a mis de côté.
È andato in cucina con due borse.
Et elle est dans la cuisine avec deux bagages. C'est à ce moment que j'entends de nouveau cette magnifique voix.
Et questa volta mi diceva, diglielo, diglielo.
Que cette fois-ci lui Chiamalo. Disait, dis-lui, appelle-lui. Mais je ne savais pas quoi dire. Je pensais que la maladie avait progressé. Et cette belle voix me disait, appelle-lui, dis-lui, appelle-lui.
Ho chiamato mio marito.
J'appelais donc mon mari, qui s'appelle Antoine. Antonio, Antoine, viens. Quelque chose s'est passé. Elle se lève debout. J'aurais voulu faire retour assise, mais je ne pouvais pas. Parce que derrière, comme j'entendais la même impression que j'avais dans la vasque. C'est-à-dire comme si quelque chose me soutenait, me tenait debout.
Da lì ho camminato in mezzo alla stanza.
J'ai marché dans la pièce.
Ho fatto due giravolte.
J'ai fait deux tours
tourner en rond
dans la pièce. Le mari avait tenté de l'aider, disons, en premier instant.
Si è accasciato al tavolo della cucina.
Ma lui è un cardiopata, lui ha avuto un malaise sulla table de cuisine. Je lui suis allé à côté, je l'ai embrassé.
E là ho capito
et
che
là,
ero guarita io e non
che
la
j'étais guéri
bambina.
Et non la petite fille pour laquelle j'avais demandé la guérison.
C'est une histoire très très émouvante. Merci beaucoup docteur pour votre présence, votre traduction et puis toute cette pédagogie autour du processus médical et puis ensuite de reconnaissance du miracle. Toute dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez personnellement pour l'avenir? Témoigner, toujours témoigner?
Eh bien, certo. A me mi è stato regalato, lo devo dire a tutti.
Écoutez, j'ai reçu un don et donc j'ai l'obligation de le retourner aux autres.
On vous souhaite bon courage, parce que témoigner dans la période médiatique actuelle, ça n'est pas toujours facile. Bon courage, madame.
Quel que vaut le Seigneur.
Ce que vaut le bon Dieu.
Merci, madame.
Grazie, buongiorno.
Grazie mille.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Dans la cité mariale, 96.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape appelle à trouver des solutions de paix à Ceuta. Si la situation est revenue au calme dans le